Le débat africain. Alain Foucault.
Elle possède 48% de toutes les entreprises en Afrique. Pourtant, elle ne représente que 20% de la population ayant un compte bancaire. Il faut dire que les institutions financières ont établi, malgré la crise des années 80, qui a mis de nombreux chefs de famille au chômage, des critères qui les excluent, de fait, de la liste des personnes qui peuvent bénéficier d'un financement de leurs activités. Mais elles ont de la ressource, puisque des milliers d'entre elles ont trouvé une source de financement. Le microcrédit. Comment ça marche? Qui peut en bénéficier? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux femmes et aux différents microcrédits. Avec plusieurs invités en ligne au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes. D'abord, Madame Alice Tchepanou, directrice générale de la MUFA, la mutuelle financière des femmes africaines, qui est l'une des pionnières et des leaders en Afrique centrale. Madame Tchepanou est en direct de Yaoundé au Cameroun. Seconde invitée, Madame Fatouma Amadou Djibril, ancienne ministre de la Famille et des Affaires sociales et ancienne ministre de l'Agriculture du Bénin. Elle est en direct de Cotonou, la capitale économique de son pays. Notre troisième invitée est Armande Yvonne Djepan, la fondatrice de Lucovifa, une association qui héberge et accompagne les femmes dans leurs projets d'autofinancement par la création de petites entreprises. Notre quatrième invitée, et pas des moindres, est Madame Koumba Jeanne Milimono. Elle est commerçante de vêtements à Conakry et a son expérience très personnelle de la microfinance. Elle est en direct de la capitale guinéenne. Voilà pour notre plateau. Avant de parler des différents microcrédits, je voudrais comprendre. Comment expliquer que malgré leur intense activité, malgré leur rôle central dans l'économie de nos familles et de nos pays, les femmes aient autant de mal à obtenir les crédits auprès des banques en Afrique? Alice Tchepanou.
C'est normal parce que les femmes sont pour la plupart dans le secteur informel. Mmh. Donc, il est difficile pour une banque classique de les financer. D'abord, la femme ne peut pas être éligible parce qu'il y a toute une bagatelle de documents à produire tels que l'étude de faisabilité, le titre foncier, etc. Or, elle fait une activité informelle, tout est dans sa tête, c'est des petites activités que les banques peuvent difficilement financer et surtout suivre car ces activités sont à haut risque. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler.
On va en parler justement. J'ai envie de poser la question tout de suite. Dans quel secteur, et là je m'adresse à la ministre Amadou Djibril, qui a été pendant un bon moment ministre de la Famille et des Affaires sociales et ancienne ministre de l'Agriculture du Bénin, dans quel domaine ces femmes s'exercent le plus dans votre pays? Où est-ce qu'elles obtiennent le plus de microcrédits dans votre pays, le Bénin par exemple? Quelle est leur activité principale?
Merci, monsieur Alain Foucault, je dirais dans le commerce, dans l'artisanat, dans les petites activités de transformation des produits agricoles et même dans l'agriculture pour la période de semis. Je me rappelle bien pour la période de semis, le fonds FNM accordait des crédits aux producteurs. Les deux sexes confondus, femmes comme hommes. Donc, ce n'est pas seulement dans les activités de commerce, mais dans l'agriculture aussi.
Ah d'accord. Alors, Koumba Jeanne Milimono, vous êtes commerçante de vêtements à Conakry. Vous avez bénéficié d'un microcrédit pour démarrer votre affaire. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Comment êtes-vous vous êtes rapproché du microcrédit? Qui vous en a parlé et dans quelles circonstances?
Je fais le commerce des habits. C'est mon activité. Comme je n'avais pas assez d'argent pour aller dans les autres pays limitrophes pour envoyer des habits, j'ai une copine qui m'a parlé du microfinance crédit rural. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aller prendre crédit.
Alors, quand vous dites vous avez pris crédit dans cette microfinance, qu'est-ce que vous avez apporté? Vous n'arrivez pas comme ça et puis on vous donne le crédit tout de suite. Ils vous ont demandé des documents?
Oui, il y a des documents à déposer. J'ai envoyé une demande. J'ai ouvert un compte. J'ai envoyé mes dossiers, les photos. J'ai suivi une formation.
Ah, ils vous ont fait suivre une formation?
Une formation, oui.
Une formation pour quoi faire?
Une formation concernant le crédit, quoi.
Mmh, pour la gestion.
Comment pour la gestion, oui.
Mmh.
Pour la gestion.
Et après ça, ils vous ont accordé un crédit.
Après ça, ils font la visite du terrain. Après, on m'a accordé le crédit.
Mmh. Alors, sans indiscrétion, combien vous a-t-on accordé la première fois?
La première fois, j'ai commencé par 5 millions.
5 millions de 5 millions de francs guinéens.
De francs guinéens, oui.
Mmh.
J'avais un peu de capital, c'était pour augmenter mon commerce, quoi. Mmh. Mon capital.
Mmh.
Donc j'ai commencé par ça, après je suis venu à 8 millions.
Mmh.
J'ai pris 10 millions, maintenant je suis dans 15 millions.
Mmh. Et est-ce qu'ils vous demandent toujours autant de documents quand vous arrivez pour monter en gamme? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte que vous qui avez commencé à 5 millions, on vous donne 15 millions aujourd'hui?
Il y a des garanties, il y a des documents, des garanties qu'on dépose.
D'accord.
Il faut...
Alors, Armand Yvonne Djepan, vous êtes au Cameroun, la fondatrice de Lucovifa, qui est l'association qui héberge et accompagne les femmes dans leurs projets d'autofinancement par la création de petites entreprises microfinancées. C'est le même modèle au Cameroun, à Douala, où vous vous trouvez, que ce que décrivait Kumba Jeanne Milimeno?
En ce qui concerne les microfinancements, je crois que nous avons, à partir de vos activités que nous avons lancées, a été soutenu par nous-mêmes à travers notre test d'entraide que nous avons nommé Test Road, qu'on a créé au départ. Bon, c'était fourni par les
une espèce de tontine, en gros, quoi. Mm-hmm. C'était une tontine.
Oui. Mm-hmm.
Il faut expliquer ce que c'est la tontine, on apporte de l'argent.
Par les membres au départ et quelques sympathisants.
Mm-hmm.
À un certain moment donné, quand chacun parvenait déjà à s'autofinancer, financer ses activités, nous avons eu le privilège d'être contactés par PADEM, une grande association luxembourgeoise, qui nous a appuyés pour certaines activités. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, c'est juste en 2012 que nous avons continué à être autonomes. Mmh. On a continué à faire chemin avec notre caisse rouge. Ça veut dire que quoi? On fournit, et puis au fur et à mesure que les femmes en détresse arrivent, on essaye de voir quelle activité elles peuvent mener à ce que ça leur permette de joindre les deux bouts. Puisque généralement, elles sont les seules à subvenir aux besoins de la famille.
Mmh.
Donc, on met le nécessaire. Elles sont d'abord formées en choisissant, bien entendu, l'activité qui les convient.
Mmh.
Elles sont formées et puis on met le nécessaire à leur disposition pour essayer d'exploiter l'activité. À un certain moment, bien sûr qu'il y a suivi sur le terrain, à un certain moment donné, elles doivent prélever quelque chose sur le bénéfice qui doit rentrer dans la caisse rose.
D'accord.
Suite.
Elles deviennent les actionnaires de la caisse rose, elles aussi.
Mmh. Oui, c'est comme ça que nous avons pu faire jusqu'à présent.
Et vous êtes combien à peu près aujourd'hui à avoir financé? Et
nous avons pu soutenir 152 femmes jusqu'à aujourd'hui.
152 femmes dans la région de Douala.
C'est devenu vraiment autonome.
La MUFA est beaucoup plus ancienne, la Mutuelle Financière des Femmes Africaines à Yaoundé. Comment ça fonctionne chez vous, Madame Tchepanou?
Je suis tenté de dire que c'est à peu près la même démarche que la micro-entrepreneur de Conakry.
Mmh.
En principe, comme nous sommes une coopérative, dont une entreprise qui appartient à ses membres, la femme adhère d'abord, achète quelques parts sociales, c'est le minimum, c'est 10 à 10 000, et au bout de 3 mois, elle est éligible au crédit.
Mmh.
Pendant les 3 mois, on l'observe, on voit ce qu'elle fait et au bout de 3 mois, elle peut prétendre à un crédit.
Mmh.
Le minimum, c'est 20 000 francs. Le plafond, c'est en fonction...
20 000 francs CFA.
Mmh. Oui, 20 000 francs CFA.
20 000 francs CFA qui représente 30
présent,
euros.
Mmh. Jusqu'à présent, le plafond est de 15 millions. Ça, c'est un autre problème.
Mm-hmm.
Mais il faut dire que ce programme de 20 000, c'est pour les femmes à très faible revenu qui n'ont pas les 24 000 requis pour être membre à part entière.
Mm.
Donc, pour ne pas exclure d'autres femmes, on leur permet de remplir leurs conditions de membres au fur et à mesure qu'on leur donne des microcrédits. Mmh. Et en général, au bout de 3, 4, maximum 5 crédits, elles ont complété leurs conditions de membres et deviennent membres à part entière. Donc, c'est deux programmes différents. Le programme de micro-micro-crédit, si vous voulez, que nous appelons EPSI, epsilon, la plus petite valeur grecque, et l'autre activité, l'autre crédit normal, c'est en fonction de la demande, de la capacité de la femme à manager son entreprise et à pouvoir rembourser. Et comme dit Madame de Conakry, la formation est importante. Elle a raison d'insister sur la formation, parce que le microcrédit seul ne suffit pas, surtout quand on s'adresse aux femmes. Il faut toute une bagatelle de mesures d'accompagnement pour l'aider à rembourser le crédit. Et si vous ne faites pas cela, l'activité est compromise, et évidemment, par ricochet, le remboursement. Donc, en plus de l'intermédiation financière, on fait aussi l'intermédiation sociale, on forme la femme à l'éducation financière, à la gestion de sa micro-activité. Mais il y a tout un volet, un format d'appui-conseil qui n'est codifié nulle part, mais qui est tellement important, parce que quand la femme adhère à sa mutuelle, elle intègre dans sa tête, elle intègre une communauté de solidarité et d'entraide qui va défendre ses intérêts. Elle a un problème de...
Alors, avant de revenir à vous, Madame Tchepanou, j'ai envie de me retourner vers la ministre Fatouma Damou Djibril. Vous qui avez été ministre des Affaires sociales, et de la Famille, est-ce que vous avez vu... Est-ce que vous pouvez dresser un peu le profil des femmes qui bénéficient de ce crédit, de ces microcrédits?
Oui. En fait, la cible, c'est souvent les ménages pauvres à faire des revenus. Les micro-entrepreneurs inscrits dans des circuits financiers à cause de leurs moyens. Et des jeunes qui ont appris un métier qui n'ont pas pu s'installer.
Donc, il y a des jeunes, il y a les jeunes qui n'ont pas pu s'installer. Et puis, à très faible revenu. Mais sont-elles dans les centres urbains ou bien dans les campagnes? Parce que lorsque l'on parle de microcrédit, on a le sentiment que ça s'adresse essentiellement aux femmes des villes. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, du Bénin, qu'on s'adresse aux femmes de Cotonou, du marché de Cotonou, ou encore à celles de Porto Novo, ou au mieux d'Abomey et de Ouida.
Oui. Ce programme a démarré en 2007 avec le gouvernement de commerce. Il y a eu Boni, et ça couvrait tout le territoire national, les populations de nos villes et de nos campagnes. Les 117 communes étaient couvertes par ce vaste projet de microfinance. Et à ce sujet, le Fonds national de microfinance a été créé et ses bras opérationnels étaient les IMS. Par exemple, le Padme, donc, le FNM faisait la mise en place des crédits à travers ces IMF qui, comme je le disais tantôt, ces bras opérationnels distribuaient les crédits auprès des ménages les plus pauvres.
Alors, à l'instant, Madame Tchepanou mettait le doigt sur un aspect important, c'était celui de la formation. Les banquiers ont souvent dit que on ne pouvait pas leur accorder des crédits à ces femmes à faible revenu parce qu'elles ne sont pas formées pour gérer. Est-ce que dans votre cas aussi, vous assuriez la formation de ces femmes à faible revenu dans le programme dont vous parlez?
Le microcrédit au Bénin, c'est la formation, c'est l'épargne. En passant par le microcrédit. Vous comprenez? Donc, il y avait des sociologues qui formaient ces femmes-là sur la gestion. Elles étaient souvent en groupe. Et puis après, on passait à la mise en place des crédits. Vous savez, ce programme qui a démarré avec 14 milliards, en 2013, impactait déjà plus de 600 000. Bénéficiaires.
600 000 bénéficiaires.
Oui, c'est de 600 000. Donc, vous voyez, ça a commencé en 2007 avec 14 milliards. En 2010 déjà, on était à plus de 35 milliards.
35 milliards. Armand Yvonne Djepan, vous vous parliez de ces femmes qui étaient dans ce qu'on appelle communément au Cameroun les tontines, qui existent également au Sénégal, au Bénin, en Guinée. Est-ce que ces femmes remboursaient les crédits qui leur étaient accordés?
En tout cas, c'était une activité participative, parce qu'il était question de fournir la caisse rose pour pouvoir aider les prochaines victimes que nous accueillons. Parce qu'il s'agit de reprendre, de permettre à faire bénéficier les femmes victimes de violences qui ne font rien et qui sont d'une extrême précarité. Mm-hmm. C'est ça notre injustice. Qu'elles parviennent justement à nourrir les enfants, pouvoir les entretenir, la santé et puis leur scolarité. Mm-hmm. C'est ça effectivement notre objectif.
Et cet objectif, dans cet objectif, quand vous leur accordez le crédit, elles doivent rembourser.
C'est pour ça que je parle, monsieur Alain, je parle de la caisse rose.
De la caisse rose.
La caisse rose est fournie par les membres d'abord, les membres qui ont bénéficié. Mmh. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elles vendent, sur les bénéfices, elles doivent prélever quelque chose qui doit rentrer dans la caisse rose. Parce que ça va permettre de lancer l'autre séquence
d'aide.
De l'autonomisation des femmes.
Mmh.
Madame
Djepanou, on a souvent dit, les banquiers ont souvent dit, si on ne leur accorde pas de crédit, c'est parce qu'ils n'ont non seulement pas la documentation qui est nécessaire pour accorder un prêt, mais aussi parce qu'on leur fait peu confiance pour rembourser les dettes. Est-ce que dans le cas de la MUFA, qui est la Mutuelle Financière des Femmes Africaines au Cameroun, vous avez un bon taux de remboursement?
Oui, je dois dire que le taux est assez bon. Les femmes remboursent généralement mieux que les hommes. Donc, dire que les femmes ne vont pas rembourser, je pense que c'est à tort, puisque dans le réseau MC2 auquel appartient la MIFA, il est prouvé que les femmes remboursent souvent mieux leur crédit. Mais je pense qu'il y a tellement de blocages qui peuvent empêcher la femme de rembourser son crédit et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais je dois dire que le microcrédit seul ne suffit pas pour vraiment autonomiser la femme. Parce qu'une fois qu'elle va avoir des revenus, elle aura besoin d'épargner, elle aura besoin d'autres services financiers pour se réaliser pleinement et profiter vraiment du microcrédit. Donc, le taux de remboursement, en tout cas, il est mieux que celui des hommes, même comme la conjoncture est un peu difficile pour les femmes, et les charges familiales sont tellement élevées que, bon, ça peut expliquer des retards, ça peut expliquer des déchets. Et il faut dire que comme c'est des activités tellement précaires, tellement instables, il suffit d'un petit accident social pour que tout le capital soit englouti et
dans les soins de santé
pour rembourser son crédit. Ce sont des accidents de parcours qui sont que la femme rencontre généralement.
On va parler justement de remboursement dans la deuxième partie de ce magazine, dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On parlera du remboursement et on parlera aussi du fait que est-ce qu'elles sont obligées de rester dans le microcrédit et est-ce qu'il n'y a pas aussi eu beaucoup de vols et d'escroqueries dans le domaine du microcrédit. On a vu des microcrédits, des sociétés de microcrédit apparaître et disparaître aussi vite qu'elles sont arrivées. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute.
Débat africain. Alain Foucault.
On les dit dynamiques, travailleuses, plus honnêtes, plus fiables. à la faveur des plans d'ajustement structurel menés dans la décennie 80 qui ont mis de nombreux hommes au chômage, elles sont devenues, dans de nombreux foyers, les chefs de famille. C'est elles qui, par leur travail, font bouillir la marmite, comme on dit en Afrique. Et pourtant, ces femmes qui possèdent 48% des entreprises sur le continent ne bénéficient pas des financements des banques. Inventives, elles ont opté pour un autre moyen, la microfinance. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche aux femmes financées par les microcrédits. Comment ça marche? Est-ce vraiment fiable et rentable? Plusieurs invités au téléphone dans quelques pays du sud du Sahara. D'abord, Madame Alice Tchepanou, directrice générale de la MUFA, la Mutuelle Financière des Femmes Africaines, qui est l'une des pionnières et leaders en Afrique centrale. Madame Tchepanou est en direct de Yaoundé au Cameroun. Notre seconde invitée est Madame Fatouma Amadou Djibril, ancienne ministre de la Famille et des Affaires Sociales et ancienne ministre de l'Agriculture du Bénin. Elle est en direct de Cotonou, la capitale économique de son pays. Notre troisième invitée est Armande Yvonne Djepang, la fondatrice de Lucovi, une association qui héberge et accompagne les femmes dans leur projet d'autofinancement par la création de petites entreprises. Dernière invitée et pas des moindres, Madame Koumba Jeanne Milimono. Elle est commerçante de vêtements à Conakry et a son expérience très personnelle de la microfinance. Elle est en direct de Conakry, la capitale guinéenne. Voilà pour notre plateau. Alors, lorsque l'on regarde les chiffres, on se rend compte que l'absence de flexibilité des banques qui n'ont pas véritablement conçu des produits pour les femmes bénéficie vraiment aux organismes de microcrédit qui sont en plein boom, font des chiffres remarquables. On a le sentiment que les femmes sont plus solvables, remboursent mieux leurs crédits, paient mieux leurs dettes que les hommes. C'est réel, Madame Mamadou Djibril?
Ah oui, naturellement, les femmes remboursent mieux que les hommes. Parce qu'au fond, les statistiques nous ont montré au Fonds national de microfinance, on a des zones où le taux de remboursement atteint 99%.
99%?
Mais, oui, on a enregistré ce taux de remboursement. Mais dans certaines régions, par contre, le taux de remboursement est faible. L'une de mes sœurs qui disait tout à l'heure qu'il suffit d'un petit accident, par exemple des aléas climatiques, des inondations, pour que tous les efforts soient annulés.
Ça reste assez fragile finalement, c'est-à-dire qu'elles remboursent quand les choses vont bien.
Oui. Du fait de leur vulnérabilité, ou bien dans le milieu agricole, du fait des aléas climatiques, des inondations par exemple, tous les efforts se trouvent annulés. Pour pallier à ce problème de remboursement, je pense que les bénéficiaires doivent pouvoir souscrire à des micro-assurances.
Que l'on propose de plus en plus lorsqu'on accorde des microcrédits.
Oui. Par exemple, comme en Inde, une obligation juridique doit être faite à tous les assureurs classiques de développer de la micro-assurance.
Absolument. Alors, Alice Tchepanou, est-ce que le taux de remboursement est le même chez vous? Là, 99% par endroit, c'est quand même impressionnant. Est-ce que ce taux de remboursement est aussi élevé chez vous? Avez-vous mis sur pied aussi des mécanismes d'assurance pour ces femmes qui sont vulnérables, comme le disait à l'instant la ministre Amadou Djibril?
Oui, dès le départ, tout crédit doit être assuré, mais sauf que je vois même un assureur en train de rembourser certains risques, mais chez nous, l'assurance couvre l'invalidité.
L'invalidité.
Donc, si la femme, l'invalidité et le décès, c'est tout. Il sera difficile qu'un assureur accepte d'autres types de risques. Et encore, il faudra payer. Et vous savez, les femmes rechignent à payer. Elles ne comprennent pas l'importance de cette assurance pour elles s'arranger le coût du crédit. Mais c'est quand il y a un problème qu'elles se rendent compte qu'on avait quand même raison d'exiger cette assurance qui est quand même maudite. Mais bon, les taux de 99%, mais bravo, waouh, parce que nous sommes en ville, c'est difficile d'obtenir ce taux-là. Et puis, il faut quand même dire, comme je l'ai dit, il faut tenir compte du poids des charges familiales, il faut tenir compte de tout ce qui, de tous les boulots d'étranglement qui jalonnent le parcours d'une femme micro-entrepreneur et qui l'empêche de rembourser son crédit.
Mais quels sont ses principaux freins? Quels sont ses handicaps?
Oh là là, ces freins sont nombreux. Il y a d'abord la femme elle-même.
Comment ça?
Elle ne se forme pas. Elle ne se forme pas. Elle réussit à s'informer. Il arrive même qu'elle gère mal son entreprise. Elle se disperse. Elle se surendette, etc. Le deuxième frein, c'est les tracasseries administratives. Alors là, il y en a. il y a d'abord les municipalités, la police, qui, dans le cadre de l'aménagement urbain, détruit les marchés sans les recaser. Or, ces femmes, quand elles essayent de couler leurs marchandises à la sauvette, elles ont la police sur le dos pour occupation illégale de la chaussée. Donc, tout ça, c'est un problème. Il faudrait vraiment qu'on voit comment on va faire pour que les maires comprennent que leur rôle aussi, c'est de construire les marchés et quand on détruit, il faut recaser. Moi, j'ai des cas de double déguerpissement. La femme, on détruit son emplacement sur le marché pour construire des boutiques plus belles, mais qui ne sont pas adaptées à ce type d'activité.
Mais est-ce que ces problèmes ne se posent pas aussi aux hommes? Et est-ce qu'on doit arrêter l'aménagement urbain parce qu'il faut laisser la chaussée à ces dames qui sont absolument utiles, qui vendent des choses absolument utiles, mais qui dans le même temps ne sont pas dans le cadre réglementaire?
Non, je suis entièrement d'accord, mais sauf qu'il faut les recaser. Parce que le poids, ce que les sept femmes font avec cette petite activité, vous ne pouvez pas imaginer. Et beaucoup des élites de notre génération sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de l'acharnement au travail de leur maman. C'est le cas également aujourd'hui. Donc, c'est les femmes qui pratiquement tiennent les ménages en ce moment avec la crise où les hommes ne peuvent plus faire face à leurs responsabilités. C'est les femmes qui font vivre ces familles. Est-ce que pour des raisons d'aménagement urbain, on doit mettre dans la rue toute une famille qui ne demande qu'à vivre? Vous imaginez, il y a des spectacles qui marquent les enfants à vie. Donc, il faut aménager la ville. Je suis entièrement d'accord, mais il faut prévoir des espaces pour les recaser parce qu'on a aussi besoin de ces femmes-là. Généralement, absolument, c'est les femmes même qui vendent les guides. On a besoin de ces femmes. Leurs familles ont besoin d'elles.
Là, vous parliez du fait qu'elles sont leurs propres freins. Elles rechignent à se former. Kumbajane Milimono, vous, dans votre cas, vous avez suivi une formation, vous avez dit, dans la première partie de ce magazine. Étiez-vous avec d'autres femmes et avez-vous rencontré des femmes qui rechignent à se former?
Oui, oui. Pour recevoir un crédit, on suit toujours une formation. Toutes les femmes qui viennent, ils suivent une formation d'abord.
Est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas suivre cette formation? Vous en connaissez qui ont dit « moi, je n'ai pas envie de retourner à l'école pour apprendre des choses ».
Non, 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 non.
Dans votre cas, non. Ça se passe plus facilement. Vous avez remboursé sans problème vos crédits, les crédits que vous avez pu contracter jusqu'à maintenant? Ou bien il y a eu des moments où c'était très difficile?
Oui, il y a eu des moments, ça a été un peu difficile, mais j'ai quand même remboursé à temps. J'ai toujours remboursé.
À l'instant, la ministre Amadou Djibril parlait de l'assurance qu'il faut prendre lorsque vous prenez votre crédit. Vous en avez pris, vous?
Oui, on paye l'assurance.
Vous payez l'assurance. Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous payez? Parce que Alice Tchepanou, à l'instant, disait la plupart des femmes ne savent pas pourquoi elles doivent payer ça, elles ne comprennent pas toujours. Vous comprenez pourquoi vous payez?
Oui, je comprends. L'assurance, on le prend, c'est au cas où on décède, c'est l'assurance qui rembourse. Où on a une maladie, invalidité.
Mmh.
C'est l'assurance qui rembourse.
Donc
les deux conditions.
C'est absolument nécessaire. Il faut absolument l'apprendre.
Nécessaire.
Armand Yvonne Djepan, dans votre cas, est-ce que les femmes que vous aidez aussi, vous leur assurez, enfin, vous leur demandez de prendre une assurance?
Vraiment pas encore. Nous ne leur avons pas demandé de prendre l'assurance. Surtout que le minimum qui est à notre disposition nous permet seulement de les aider à lancer leurs activités.
Mmh.
Vraiment, on n'a pas encore pensé aux assurances.
Mais lorsqu'on dit qu'il peut y arriver n'importe quoi et leur activité s'arrête, c'est peut-être nécessaire de leur demander de prendre cette assurance, non?
Oui, c'est vrai, vraiment.
C'est peut-être grâce
à ces explications que je comprends que l'assurance est nécessaire.
Est-ce que vous pensez qu'elles vont comprendre la nécessité de l'assurance?
Et il suffit de leur obligés de compter là-dessus.
Mmh.
Je ne comprendrai pas pourquoi elles refuseront.
Alors,
je ne comprends pas pourquoi elles refuseront si on leur donne des conseils.
Mmh.
Parce qu'elles sont vraiment à notre écoute.
Vous êtes leur soutien en réalité.
Oui, oui.
Alors, on a vu les entreprises de microcrédit se multiplier sur l'ensemble de l'Afrique ces dernières années. Hein. Pas mal de coopératives qui sont nées et on les a aussi vues disparaître, avec certaines qui ont laissé des ardoises importantes. Alice Tchepanou, il y en a eu au Cameroun, non? Des sociétés de microcrédit qui ont disparu avec l'argent des cotisants.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a toujours.
Est-ce que ça a permis de renforcer la législation dans ce sens? Parce que vous savez, de plus en plus, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de quelques entreprises de microcrédit.
Oui, la réglementation, étant bien que mal de s'adapter à l'environnement, nous sommes en ce moment, la COBAC est outillée pour suivre vraiment les entreprises de microfinance de prêt pour un suivi de proximité. Mm-hmm. Parce qu'ils ont des moyens humains maintenant pour...
La commission bancaire.
Et des compétences pour la commission bancaire, pour suivre. Par exemple, tout établissement de microfinance doit envoyer des données tous les trimestres à Libreville et sinon, c'est des problèmes. Il y a des ratios prudentiels qu'on doit respecter et je dois dire que la plupart de ces entreprises, de ces établissements qui se ferment, c'est parce que à un moment donné, on viole les normes prudentielles et on donne des crédits qui ne se remboursent pas.
De façon désordonnée.
On ne respecte pas et puis ça finit par l'attention de trésorerie qui finit par arriver et puis on ferme. Mais sinon, il y a beaucoup encore à faire parce que vraiment, la microfinance, c'est un secteur vraiment à très haut risque, très très haut risque, mais on essaie de rester la tête hors de l'eau.
Alors, j'ai envie de poser les questions de façon très concrète pour les femmes qui nous écoutent, pour les femmes qui sont vulnérables, comme vous l'avez dit. On va faire un peu le tour. Madame Fatouma Madou Djibril, dans quel domaine une femme qui est en grande vulnérabilité doit-elle se lancer et pouvoir bénéficier d'un crédit? Quel conseil donneriez-vous à une femme qui n'a pas de moyens et qui a envie de travailler, qui a envie de nourrir ses enfants, de faire vivre sa famille? Dans quel domaine vous conseilleriez qu'elle aille?
Je crois que les femmes doivent être mises en réseau. Et l'octroi des crédits doit être fait à des groupements de femmes pour faciliter le remboursement. Et je reviens encore sur la question de micro-assurance. Parce que chez nous, au Bénin, ce n'est pas développé. Les structures classiques d'assurance, jusqu'à ce jour, ne font pas de la micro-assurance. Donc, l'État prendre des mesures qui facilitent cet état de choses. Par exemple, comme au Brésil, une défiscalisation et l'adoption de décrets favorables aux acteurs de la micro-assurance. Mmh. Il faut encore mettre un accent sur la formation. Donc, puisque la formation chez nous, elle est collective, elle n'est pas individuelle, les femmes adhèrent beaucoup plus vite à cette forme de formation. Mmh. Et je crois que nos frères de Cameroun doivent s'inspirer même de Guinée, de cette école-là, de cette expérience béninoise. Parce que beaucoup de femmes, et ça a permis chez nous d'avoir une politique qui a fait la promotion du genre.
Je reviens à ma question parce que le temps tourne vite, malheureusement. Dans quelle activité sont-elles un peu plus confortables? L'agriculture ou le commerce?
Le commerce.
Quel type de commerce?
Le petit commerce. Par exemple, les transformations des produits agricoles.
Mmh.
Oui.
Dans ce domaine-là, elles ont plus de chances de réussir, il y a moins de risques et elles peuvent bénéficier de microcrédits.
Oui,
bien.
Je pense.
Alors, Madame Tchepanou, je pose la même question. Vous qui êtes directrice générale de la MUFA, la Mutuelle Financière des Femmes Africaines, quel est le conseil que vous donneriez à une femme vulnérable aujourd'hui qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'exercer une activité avec très peu de moyens?
C'est difficile de donner le conseil à quelqu'un. Parce que mon expérience de 20 ans de pratique de la microfinance, c'est qu'il n'y a plus de domaine réservé. On retrouve les femmes partout. Toute cette discipline, c'est cette volonté de réussir. Elles s'excellent partout, hein, pour peu qu'elles ont un peu de moyens, un peu de soutien, un peu d'encadrement, elles s'excellent partout. Tout cette discipline qu'il faut à tout entrepreneur pour évoluer, c'est tout. Moi, je
donc, vous ne diriez pas agriculture ou commerce, vous ne conseilleriez pas un domaine précis, en gros.
C'est difficile parce que toute activité est risquée, comporte des risques. C'est à la personne, d'abord la volonté de... Quand on va entreprendre, c'est un rêve qu'on est en train de traduire en réalité. On ne peut pas rêver pour quelqu'un d'autre. Et je vous le dis, on a les femmes dans tous les secteurs en ce moment au Cameroun. Il y en a qui réussissent dans l'agriculture, qui réussissent dans le petit commerce. Elles commencent par le petit commerce. Elles grandissent, jusqu'à avoir une petite entreprise formelle. Il y en a qui sont dans l'artisanat, il y en a qui sont dans les services, où c'est la volonté de réussir, c'est la discipline qui guide la personne. Je ne peux vraiment pas donner de conseils.
De conseils dans ce sens-là.
Parce que les femmes...
Armand Yvonne Djepan, vous diriez quoi? Vous conseilleriez un domaine ou bien vous pensez qu'elles doivent tout faire?
La majorité des bénéficiaires que nous accueillons proposent leur activité de leur choix. Tout ce que nous faisons, nous leur facilitons la tâche. Ça veut dire dans la formation et la gestion. Sinon, ceux qui n'en ont pas encore leur proposent l'artisanat ou l'élevage, ou la confection de jets de fleurs, la décoration, l'infographie, ainsi de suite, ou le braisage et fumage de poissons. Voilà tout ce qu'on peut leur proposer. Pour ceux qui n'ont pas encore d'activité précise et qui voudraient peut-être notre conseil.
Koumba Jeanne Milimono, vous qui êtes à Conakry, qui êtes commerçante de vêtements, quel est le secteur qui marche le mieux pour les femmes dans votre pays?
Nous, ici, c'est le secteur commerce, hein. C'est le commerce.
Essentiellement le commerce. Alors, lorsqu'on préparait cette émission, on a écouté quelques femmes qui disent « Nous, on en a marre qu'on ne nous accorde que les microcrédits. On aimerait des grands crédits aussi comme les hommes, puisque nous remboursons nos dettes. On a désormais fait nos preuves. » Que répondez-vous à celle-là, Madame Chepano?
Ah ben justement, le microcrédit, ce n'est que la première étape. L'idéal, c'est qu'elle progresse et puisse être éligible au crédit de montant important. On l'a vu, quand une femme reste dans le microcrédit, elle ne sort pas de cette logique de survie. Donc, on a des femmes qui ont commencé par le microcrédit et qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, sont à la tête des petites entreprises formelles. Même si elles choisissent de rester dans l'informel, c'est quand même des entreprises d'une taille importante. Et les besoins également évoluent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre plafond, maintenant, nous sommes déjà à 13 millions de plafonds. Et beaucoup de femmes qui sont éligibles ont commencé par le microcrédit. Dans le microcrédit, c'est une étape. Elles ont raison de se plaindre. On ne peut pas les confiner uniquement dans les microcrédits. Pourquoi ne pas donner la chance à quelqu'un qui progresse d'aller encore de l'avant.
Madame la ministre, vous pensez la même chose?
Ah oui, il faut que les femmes dépassent le niveau de microcrédit, qu'elles aillent à l'entrepreneuriat, qu'elles aillent dans les banques classiques. Mais vous savez que la pauvreté est accentuée dans le rang des femmes. Pour aller dans les banques classiques, il faut avoir des garanties et des garanties solides. Par exemple, dans ma région, il faut avoir l'aval de son mari pour avoir un crédit.
Ah oui.
Et je crois que nous devons nous asseoir entre femmes et lever cet effet, par exemple, les violences dans les ménages, afin d'être beaucoup plus crédible d'avoir des crédits dans les banques.
Très bien.
Donc, d'où toujours la formation se pose.
D'où toujours la formation.
Les moyens. Oui, ben,
Vous posez toute la question de la formation et je pense que finalement, on reviendra sur cette question et sur cette question de formation des femmes qui revient régulièrement dans les émissions que l'on consacre aux femmes. Merci mesdames d'avoir accepté de venir ici en débattre et bon courage dans vos activités respectives. À très bientôt. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous quant à nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.